Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Le Ridon et Nicolas Sandé, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par l'ami Jean-Frédérix. Nouvelle série consacrée aux monarchies, donc. Un peu partout dans le monde, les rois et les reines sont mis à rude épreuve et doivent relever d'importants défis si elles veulent espérer se maintenir. On ira cette semaine en Thaïlande, dans le Golfe ou encore au Maroc. Mais pour commencer, restons en Europe, traversons les Pyrénées pour aller en Espagne où la monarchie vacille.
El rey Juan Carlos ha comunicado a su hijo, el rey Felipe VI, su intención de abandonar España.
Viajó en coche hasta aquí, hasta el aeropuerto de Oporto.
Este complejo de la República Dominicana.
Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi.
Y mentir, vous savez mentir, a la cour c'est très utile.
Il a hecho, que la pague.
Si c'est vrai, alors il devrait rester et payer pour ce qu'il a fait. Il n'a pas à partir. Si nous sommes tous égaux devant la Constitution, pourquoi devrait-il quitter l'Espagne ?
C'est très mal. Il peut quitter l'Espagne s'il rend ce qu'il a volé. S'il laisse tout l'argent ici, il peut partir.
Je trouve cela triste que quelqu'un qui a tant fait pour la démocratie, pour son pays, termine son règne comme cela. Je le déplore parce que je crois que le peuple l'aimait et l'aime encore. Mais vraiment, je le regrette.
Voleur ! Voleur ! Vous m'avez volé !
Non, monseigneur, je vous ai menti.
Voilà, montage autour de l'affaire Juan Carlos, agrémenté de quelques extraits bien sentis de la folie des grandeurs qui se déroule évidemment à la cour d'Espagne. Quelques jours après le départ de Juan Carlos, des partisans s'étaient réunis à Madrid pour demander la fin de la monarchie. On entendait une ou deux justement de ces voix qui dénonçaient les mensonges et les malversations du roi déchu. Depuis quelques mois, la monarchie espagnole doit gérer la révélation des scandales financiers de l'ancien roi Juan Carlos. En effet, on se souvient qu'en 2014, le père de l'actuel roi avait abdiqué après la révélation de ses escapades en safari au Botswana avec sa maîtresse, alors que son pays était ravagé par la crise économique. Aujourd'hui, ce sont ces « montages financiers », je mets la formule entre guillemets, qui font scandale, à tel point que l'ancien monarque de 82 ans a quitté le pays au cœur de l'été pour gagner les Émirats Arabes Unis. Face à cette crise de légitimité de la monarchie, le roi en exercice, Felipe VI, a tenté de se démarquer de son père en refusant son héritage. Mais malgré ses efforts, la question d'un basculement vers la République refait surface. Un changement de système est-il possible en Espagne ? Felipe VI peut-il s'émanciper de la figure polémique de son père et redonner du souffle à l'institution ? La monarchie espagnole pourra-t-elle survivre à la fin de Juan Carlos, une figure irrévocablement rattachée à la fin du franquisme et à la consolidation de la démocratie espagnole ? Certaines des questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité ce matin Pilar Martinez-Vasseur. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous
merci
ce matin.
Vous
êtes professeur d'histoire et civilisation espagnole à l'Université de Nantes et membre du Centre de recherche sur les identités nationales et d'interculturalité. Avec nous pour discuter également, depuis Marseille, Sophie Babi, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne, donc une spécialiste des enjeux de mémoire en Espagne. Et il en sera question, justement, de ces aspects mémoriels qui rentrent en ligne de compte, évidemment. Mais d'abord, Pilar Martinez-Vasseur, on va peut-être commencer avec vous. Cet été, les Espagnols ont été un peu abasourdis par les révélations, nombreuses révélations autour de Juan Carlos découlant de l'enquête de la justice suisse. Alors, il y en avait déjà eu un paquet, mais il y en a des nouvelles. Entre la très généreuse donation du roi d'Arabie Saoudite qui a fait un versement de 100 millions d'euros, s'il vous plaît, sur un compte bancaire suisse, une autre généreuse donation du roi du Bahreïn, cette fois à peu près 2 millions d'euros. On a une fondation aux pratiques douteuses, un roi qui se balade dans les rues de Genève avec des millions dans une valise. Les révélations sont enchaînées à tel point que pour éviter que l'État espagnol n'ait à répondre d'une éventuelle demande de la justice suisse pour une extradition du personnage, eh bien, l'ancien monarque a préféré partir pour sauver la monarchie, a-t-il dit. Que vous ont inspiré ces nouvelles révélations, Pilar Martinez-Vasseur? Est-ce qu'elles vous ont étonné ou finalement tout cela est dans la droite ligne de ce qu'on connaissait déjà, sa personnalité, son train de vie qu'on voit depuis des années?
Je pense que ça serait facile de dire que finalement, rien ne nous a étonné parce qu'on le savait. Je veux dire, ça fait des années qu'on savait que la vie privée du roi Juan Carlos était loin de l'exemplarité qu'on demande à toute institution monarchique. Mais je dirais également que la plupart de la classe politique espagnole, la presse en général et les citoyens, évidemment, ont tourné la tête, regardé ailleurs. Et lorsque ces chiffres sont arrivés devant nous, devant l'opinion publique, ces chiffres sont arrivés au moment où en Espagne il y avait une crise sanitaire comme dans le monde en général. Et ces chiffres arrivaient au moment où il y a une instabilité politique aussi importante du fait de l'absence de majorité claire au Parlement. Donc je vais dire que ce contexte-là fait que ces révélations qui sont vraiment absolument extraordinaires dans la dimension se sont trouvées dans un contexte qui rendait peut-être difficile la perception à juste titre ou dans la justesse de cette importance de tournement de fond, etc. Donc je crois qu'il y a aussi ce contexte, on dit souvent et on a dit souvent pendant ces mois-ci en Espagne, que s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire aussi importante qu'a frappé l'Espagne après l'Italie, peut-être que la dimension aurait été différente pour juger ou pour vraiment se pencher sur cette question proprement dite.
Sophie Babi, est-ce que vous rejoignez Pilar Martinez-Vasseur quand elle dit finalement la presse a tourné la tête, les Espagnols ont regardé ailleurs? C'est vrai que c'est des choses qu'on a lues aussi un peu a posteriori dans la presse espagnole, l'idée que finalement les médias n'auraient pas fait complètement le boulot sur cette question, qu'ils n'auraient pas beaucoup couvert tout cela et que d'une certaine manière, eh bien une certaine de peut-être une forme de bienveillance à l'égard de justement de cette cour espagnole et en particulier des frasques de Juan Carlos. Est-ce que vous rejoignez Pilar Martinez-Vasseur sur ce point, Sophie Babi? On a regardé ailleurs en Espagne.
Oui, c'est quelque chose qui remonte à bien plus longtemps, je dirais, à savoir qu'il y a effectivement une forme de bienveillance envers la figure de Juan Carlos, comme une forme de reconnaissance de ce qu'il a fait pour l'Espagne dans les années 70-80. Par exemple, toutes ces histoires de cœur, hein, ces nombreuses maîtresses, certaines sortaient dans la presse. Bon, ça n'a jamais fait plus scandale que cela. En revanche, les scandales financiers, les problèmes de corruption, ceux-là sont quand même sortis assez vite dans la presse, en particulier les scandales qui ont touché son gendre et sa fille au début des années 2010. Et là, la presse n'a pas vraiment tourné les yeux. On va dire que l'enquête judiciaire et médiatique a été menée. En revanche, c'est vrai que sur cette affaire, ce scandale de corruption concernant Juan Carlos, les informations, on les connaît à peu près depuis 2018-2019. Et le scandale n'a véritablement éclaté que cette année. Donc oui, la presse a tendance à minimiser, en particulier la presse nationale, je dirais, parce qu'après, il y a aussi une différence entre les presses régionales et nationales.
Il faut peut-être préciser, Pilar Martinez-Vasseur, qu'il va y avoir une rupture très importante en 2012, quand il y a cette affaire terrible, quand Juan Carlos est parti faire un safari de luxe au Botswana en compagnie de sa maîtresse Corina Larsen, alors que le pays est dans une crise économique terrible. Un mois avant de partir, il expliquait à la télévision qu'il n'arrivait pas à dormir à cause du chômage des jeunes, et voilà qu'on le retrouve dans ce safari de luxe. C'est quelque chose qui a marqué beaucoup là l'opinion espagnole. Jusqu'ici, les problèmes de cœur, les histoires, etc. Tout ça, ça passait à peu près. Mais là, vraiment, il y a une rupture à ce moment-là.
Oui, je crois que jusque-là, bon, il y avait une certaine tolérance envers sa vie privée, étant donné qu'il y avait aussi la présentation de ce que disait ma collègue Sophie Babi sur le fait de son rôle important dans la transition, bon, sur lequel on pourrait éventuellement revenir. Oui, mais je crois que c'est à ces moments-là que les Espagnols ont compris pour la première fois que le roi est nu. C'est-à-dire que toutes ces déclarations, tous ces messages envoyés à la nation, c'était vraiment de la parade et c'est du faux. Lorsque finalement il y a eu cet accident où bon, on dit il s'est cassé le fémur, etc. Je pense qu'il y a beaucoup plus qu'un accident. L'image du roi a été vraiment cassée. Et je crois que ce qui a été pathétique, et je pense que là les écrivains, les cinéastes pourraient en parler. Je crois que le moment le plus pathétique pour moi, et là je parle en tant aussi que citoyenne espagnole, c'est le moment où il est sorti de sa chambre d'hôpital devant les caméras pour dire, comme si c'était vraiment une question vraiment familiale au pays, qu'il regrettait beaucoup ce qui s'était passé, qu'il recommencerait pas. Donc là, c'est vrai que je pense à des écrivains, des cinéastes, des dessinés. C'est vrai que là, il y a vraiment un sujet extraordinaire. Et donc, pas de demande de pardon, juste des excuses. Je crois que ce moment-là était vraiment très difficile.
Alors, le scandale, il faut expliquer un tout petit peu aux auditeurs français qui sont pas forcément au courant de tout ça. Il arrive par une femme qui s'appelle Corina Larsen, qui a reçu environ 60 millions d'euros de la part de Juan Carlos. C'est ces millions d'euros sur lesquels la justice suisse s'est un peu penchée. Alors, officiellement, l'avocat de Corina Larsen a commencé par évoquer un cadeau de la part de Juan Carlos, sauf qu'il y a eu un enregistrement audio qui a été enregistré à son insu, qui évoque le fait qu'elle aurait été utilisée comme prête-nom pour cacher son patrimoine. Finalement, malgré les soupçons, l'enquête va être classée sans suite, faute de preuves, et aussi parce qu'il y a une inviolabilité du roi. C'est une immunité qui a beaucoup irrité les Espagnols. Alors, pour la petite histoire, petite, je sais pas, mais en tout cas, l'argent, pour l'instant, n'a pas été récupéré. Mais il y a une chose qui est intéressante, Sophie Babi, c'est qu'on parlait tout à l'heure de la presse. Du côté des politiques, il n'y a pas non plus un empressement pour aller regarder ce qu'il se passe. On est à l'été 2018. On a la diffusion de cet enregistrement avec quand même derrière ce qui ressemble quand même à un scandale d'État. Et le Premier ministre en responsabilité, en l'occurrence Pedro Sanchez, qui vient d'arriver après des mois de crise politique, reconvocation d'élections, etc., etc., eh bien, il décide de ne pas mettre en place d'enquête parlementaire. Comment comprendre cela, Sophie Babi? Là aussi, du côté des responsables politiques espagnols, on ne veut pas trop s'en prendre à la monarchie?
Vous avez donné un peu la réponse vous-même en posant la question, à savoir en présentant cette situation de crise politique terrible qui a mené Pedro Sanchez au pouvoir. Hein. Et donc la démocratie espagnole est extrêmement fragile depuis quelques années, fragilisée bien sûr par les tentatives de sécession de la Catalogne, mais par bien d'autres enjeux qui expliquent qu'un scandale supplémentaire sur la monarchie n'est absolument pas désiré par les hommes politiques. Il y a tellement le danger, si vous voulez, la peur en tout cas d'une fracturation plus grande encore de l'opinion publique et des partis politiques se fait jour.
Mais Sophie Babi, ni les socialistes espagnols, ni les conservateurs espagnols ne sont responsables de tout cela. Ça aurait pu, au contraire, constituer une opportunité pour asseoir un peu sa légitimité à ce Pedro Sanchez qui venait d'arriver. Il n'était absolument pas responsable de tout ça.
Non, bien sûr que non. Mais alors là, on touche à un plus gros problème qui est la question de la légitimité de la monarchie en Espagne. Quelle est la tendance parmi les groupes politiques, en particulier le Parti Socialiste, les électeurs du Parti Socialiste sont pas farouchement anti-monarchiques, même s'ils sont favorables plus majoritairement républicains. Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans un espèce d'entre-deux où l'électorat socialiste s'accommode du monarchie tant qu'elle fait son boulot, hein, y compris Pedro Sanchez et le gouvernement. Et en revanche, là, quand le scandale survient, effectivement, on se pose la question du futur de la monarchie. Mais d'abord, je dirais, il faut régler les problèmes du pays actuel, en particulier, comme l'a bien rappelé ma collègue, la crise sanitaire. Donc le scandale ne tombe vraiment pas au bon moment. Donc non, je pense que si légitimation future il y aura, ça peut pas arriver maintenant. C'est beaucoup trop tôt.
Pilar Martinez-Vasseur, pardon, excusez-moi.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que ma collègue vient de dire. C'est-à-dire que nous sommes aussi dans ce Parlement aujourd'hui, dans une composition du Parlement aujourd'hui, avec une majorité extrêmement fragile, et même cette majorité qui n'est pas absolue, loin de là, qui est composée par le Parti Socialiste et Podemos, voit à l'intérieur de ces mêmes partis des divisions importantes. Donc il ne faut pas oublier que Podemos, qui est vraiment un parti qui, depuis sa création, a affiché son choix pour une république, Pablo Iglesias disait bientôt, à l'horizon de pas longtemps, il y a une république, etc., etc., que ce même parti Podemos est fragilisé lui-même, et il a perdu des élections en Galice et au Pays Basque. Donc, même s'il s'affiche républicain, parce que pour ses bases et pour ses électeurs, c'est important, il va pas aller plus loin que les déclarations. Il y a aussi dans ce parlement les partis indépendantistes catalans, les partis nationalistes basques, qui est une force d'appoint, qui a déclaré aussi son rejet de la monarchie. Donc, je pense que c'est pas pour jouer la case espagnole de dire non, il faut pas toucher, il faut continuer comme ça. Je pense que vraiment, regardant bien tout ce qui se passe aujourd'hui dans la vie politique espagnole, je pense que Pedro Sánchez n'a pas les coups de franche pour vraiment aller vers un référendum ou même poser la question de l'avenir de l'institution monarchique.
Les référendums, l'option du référendum, Sophie Babi, originellement, il était prévu qu'il y ait une consultation en mai dernier, organisée par la plateforme étatique Monarchie ou République, qui est un collectif d'une soixantaine d'organisations politiques et d'associations républicaines. Finalement, il a été repoussé, on comprend évidemment, à cause de cette crise sanitaire. Est-ce qu'on a une idée de ce que pourrait donner cette consultation ? Peut-être aura-t-elle lieu, mais que nous disent les sondages aujourd'hui ? Jusqu'où cette Espagne est opposée entre partisans de la monarchie et opposants à la monarchie?
Alors les sondages qui sont sortis au mois d'avril-mai, au moment donc de l'hypothétique consultation, sont assez variables. Il y en a qui indiquent que ce serait moitié-moitié, en gros, hein, 47%, 47%. D'autres qui indiquent une légère majorité pour la République, mais aucun de ces sondages, de toute façon, n'est mené par l'organisme un peu l'équivalent de l'INSEE, si vous voulez, qui ne fait plus sondage sur le sujet. Donc c'est très difficile de savoir, je pense que l'opinion...
Pourquoi on ne fait plus de sondage sur le sujet?
Parce que la monarchie est un peu intouchable. La question, en tout cas, de la nature hein, de l'État, du régime, est très compliquée en Espagne. Tous les sondages qui sont établis sont faits par des journaux, hein, essentiellement des organismes de presse qui sont plutôt favorables à la République, hein, qui sont de nature républicaine. Donc c'est compliqué de savoir. Là, El País vient de sortir un sondage pour savoir sur le futur de la monarchie, pour savoir combien de temps durerait l'institution, combien de temps les Espagnols aimeraient que dure l'institution monarchique. Et on voit qu'à 41%, ils répondent « peu de temps ». Voilà. Et que ceux qui veulent que la monarchie dure longtemps, ils sont à peine un quart l'opinion publique espagnole. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Espagnols, ils sont pas du tout farouchement monarchiques. Voilà, ils ne sont pas pour la défense de la monarchie. Si on leur propose autre chose qui fonctionne, qui soit plus efficace et qui soit légitime et qui garantisse, bien sûr, la stabilité du régime politique et de l'État, oui, je pense que la République peut, bien sûr, obtenir une majorité. Voilà. Les Espagnols ne sont pas, par nature, monarchistes à l'immense majorité.
Mais en tout cas, il y a quand même une division assez importante, en réalité. Le premier sondage que vous évoquiez évoque un partage assez équilibré entre les deux camps.
Tout à fait. Ouais. Et en plus, ça dépend, et c'est très très variable en fonction de l'électorat politique. C'est-à-dire que, bien sûr, les électeurs de Podemos sont très 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 majoritairement, voire intégralement républicains. Ceux du PSOE sont plus partagés. Et les électeurs de droite, y compris ceux du centre de Ciudadanos, sont bien plus favorables à la monarchie. Donc on a une Espagne très fragmentée à ce sujet, oui.
Donc, ça veut dire, Pilar Martinez-Vasseur, que, évidemment, le républicanisme, et il est historiquement, on le sait bien, en Espagne situé à gauche, durant la guerre d'Espagne, le camp républicain se confondait avec la gauche. Aujourd'hui, c'est un peu plus nuancé que ça, c'est pas aussi clair que ça.
Je pense que, pour continuer dans ce que vient de dire ma collègue, je pense qu'il faudrait dire aussi qu'il y a un clivage générationnel concernant l'approche ou le choix d'un régime républicain ou monarchiste. Et il y a aussi un clivage régional.
Alors, c'est là où je voulais en venir. La géographie, justement, du camp républicain, des anti-monarchiques, c'est quoi?
Donc, les trois régions dont le pourcentage, mais c'est que Mme Avi vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité des sondages qui sont faits par des organismes privés et l'organisme public n'en fait pas, comme on vient de le dire, parce qu'on sait que c'est un sujet qui va être très polémique. Donc, les régions Galice, Pays Basque, Catalogne, majoritairement, seraient toujours sous conditionnel, pro-républicaine, et il y aurait des régions du centre de l'Espagne, notamment la Castille, une partie de l'Andalousie, mais tout ça aussi c'est très fragmenté, parce que il y a aussi des majorités politiques qui sont des majorités dans des grandes villes à l'intérieur de ces régions, par exemple en Andalousie, des villes qui sont vraiment dirigées par la gauche ou par Podemos. Donc c'est beaucoup plus difficile qu'un partage simplement droite-gauche.
Vous dites chez les Catalans, il y a un camp républicain très fort. C'est étonnant parce qu'on peut se dire qu'a priori, du côté des Catalans, précisément, on rejette et la monarchie et la République, puisque tout cela incarne le pouvoir central. Donc il y a un rejet massif des deux.
Non, puisque la revendication d'une partie de la Catalogne, on va dire, pas toute la Catalogne, serait vraiment d'avoir accès à une République catalane indépendante de ce qui pourrait être la République espagnole. Et là, pour poursuivre...
Mais donc républicain, mais au sens d'une République catalane.
Catalane. Donc ça nous ferait revenir sur un sujet qui complexifierait encore plus notre débat de ce matin. C'est vraiment la République de 1931, où il y a eu des débats entre une République unitaire, une République fédérale, etc.
On va y venir, parce que j'ai prévu de le faire. On va essayer, en tout cas. Non, je vous en prie. Sophie Babi, sur cette question catalane, qui évidemment est une question centrale, en particulier ces dernières années, on l'a vu du côté de l'Espagne. Comment elle joue sur justement cette opposition entre pro-monarchique et anti-monarchique? Et puis on pourrait peut-être aussi regarder, Sophie Babi, en la matière, comment se situe le roi actuel, Felipe VI, sur la question catalane, Sophie Babi?
Alors, oui, la Catalogne, évidemment, fait partie de ces régions, je suis tout à fait d'accord avec ma collègue, totalement, les plus anti-monarchiques, je pense, de l'Espagne. Mais ça ne l'a pas toujours été. Cela dit, il y a effectivement une tradition d'un républicanisme fédéraliste en Catalogne. Donc après, il y a cette nuance entre une république totalement indépendante ou une république catalane indépendante ou une république catalane à l'intérieur d'une république espagnole, d'accord ? Donc on parle ici de fédéralisme qui remonte à très loin et qui a subsisté un peu dans le temps et qui est toujours présente en Espagne. Donc les partis qui dominent en Catalogne aujourd'hui, on va dire, ils sont très très majoritairement favorables à une république. Voilà. Que cette république soit indépendante ou dans le cadre d'une république espagnole, mais parce que la république incarne le fédéralisme et donc l'autonomie des nationalités dans le territoire. Alors ensuite, l'attitude de Philippe VI en Catalogne, eh bien effectivement, lors du référendum de l'année dernière et de la tentative donc de la proclamation de l'indépendance de la Catalogne, enfin c'était en 2017, pardon, le temps passe vite, à l'automne 2017, le Philippe VI a prononcé une allocution télévisée, qui était sa première allocution télévisée en dehors des messages annuels qu'il prononce à Noël, et qui était donc tout à fait exceptionnel. Et c'était un message très court, très bref, de 6 minutes, mais très ferme, contre la déloyauté, presque la trahison, en fait, le non-respect de la démocratie qu'avait incarné ce processus catalan. Donc là, très clairement, Philippe VI s'est montré partisan de l'unité de l'Espagne, bien sûr, de la sauvegarde de la Constitution, mais aussi, du coup, il a été très catalogué vers les conservateurs et la droite espagnole. Voilà. Donc ça a été un moment aussi assez assez fort dans la délégitimation de la figure de Philippe VI pour une partie des Espagnols, alors qu'à l'inverse, pour d'autres, il a ainsi affirmé sa figure de chef symbolique de l'Espagne.
Eh bien, Sophie Babi, vous me tendez la perche. Extrait justement de ce discours, on est en octobre 2017, on est en pleine crise catalane et Philippe VI prend la parole, un discours hautement politique.
Nous avons tous été témoins de ce qui s'est passé en Catalogne, où les dirigeants régionaux prétendent proclamer illégalement l'indépendance. Par ces décisions, ils ont systématiquement bafoué les lois, montrant une déloyauté inadmissible à l'égard du pouvoir d'État.
Voilà, un discours de fermeté, Pilar Martinez-Vasseur. Alors évidemment, il représente la continuité de l'État, l'unité, etc. Mais en même temps, là, la position extrêmement ferme de Felipe VI fait qu'il prend de fait une position politique. Il apporte un soutien sans le dire, mais il apporte un soutien à Mariano Rajoy qui vient de déclencher l'article 155 qui permet à Madrid de récupérer le contrôle de la région. Et de fait, c'est un soutien tacite qu'il lui apporte là.
Oui, je crois que ce discours a marqué aussi une rupture dans ce qu'on pouvait avoir comme image, ou pas encore une image, puisque finalement, son image publique n'était pas encore installée. Mais je crois que finalement, lorsqu'on a étudié et écouté ce discours, on a eu l'impression que c'était un discours qui était écrit et dicté par le gouvernement de Rajoy. Et c'était loin, et on l'avait dit à l'époque, de cette idée qu'on avait au moment de la transition de son père, au moment de ce passage du franquisme à la démocratie, où Juan Carlos avait déclaré « Je voudrais être le roi de tous les Espagnols ». Là, il y a une rupture, il se place du côté du gouvernement, donc des conservateurs, et vraiment, on a l'impression qu'il prend parti, donc ce n'est plus le roi qui règne, ne gouverne pas, c'est comme s'il avait déjà franchi le pas de ce qu'on avait jusqu'à présent exigé d'un monarque constitutionnel.
Attendez, parce que vous sous-entendez que le discours a été écrit en partie par le gouvernement. Qu'est-ce qui le laisse entendre? Parce que, après tout, Felipe VI a le droit aussi d'avoir une position proche de celle du gouvernement conservateur de l'époque.
Tout à fait. Mais on ne sait pas. Je parle de tous les collègues avec qui nous travaillons, qui font l'analyse des discours, aussi bien de Juan Carlos que de Philippe VI, depuis déjà un moment. Et ce discours de Philippe VI à ce moment, bien sûr que tous ces discours passent aussi par lui, et je pense également par sa femme qui est journaliste. Donc c'est aussi un rôle important à l'occasion. Il pourrait, ou on pourrait, mais là ce sont que des hypothèses, on pourrait imaginer que l'attitude de Philippe VI se décante contre ce mouvement indépendantiste tel qu'il avait été mené à ce moment-là. Mais il faut aussi dire qu'il était très très proche de tous les discours qu'on avait entendus pendant cette période-là de la part du gouvernement du Parti populaire.
Sophie Babi, est-ce que vous pensez qu'effectivement il y a eu là un lien peut-être trop fort entre la monarchie et le gouvernement conservateur de l'époque, et on pourrait peut-être regarder les choses maintenant avec évidemment le facteur changeant, c'est-à-dire que le gouvernement espagnol maintenant est un gouvernement socialiste, et on pourrait se demander ce que sont les liens aujourd'hui entre Felipe VI et le Premier ministre Pedro Sanchez. Est-ce que il y a une entente bonne, cordiale, ou est-ce qu'on sent que c'est compliqué et que du coup effectivement Felipe VI est plutôt un conservateur?
Alors, je pense que là, c'est au-delà des liens personnels. Je rejoins tout à fait ma collègue dans le sens où ce discours a marqué l'image publique de Philippe VI, qui, je suis complètement d'accord, n'avait pas encore été tout à fait bien délimité, et il a clairement pris parti. Voilà. Je ne sais pas si c'est dicté par le gouvernement de Rajoy, mais il a pris parti à un moment donné où on pouvait réfléchir autrement à la solution du problème catalan, ce qu'essaye de faire aujourd'hui le gouvernement de Pedro Sanchez, mais bon, même s'il y a d'autres priorités. Donc là, on pouvait tout à fait se montrer partisan de l'unité de l'Espagne sans avoir un discours aussi ferme, voire violent, à l'encontre des indépendantistes catalans. Bon. Ensuite, la relation personnelle avec Pedro Sanchez, je pense qu'elle est absolument cordiale. En tout cas, elle importe peu. Ils ont des contacts réguliers. Mais on va dire qu'à ce moment-là, Philippe VI est effectivement sorti de son rôle constitutionnel presque, à savoir de ne pas s'immiscer dans la gestion de la politique. Il a fait de cette affaire une affaire au-delà de la gestion politique et gouvernementale pour vraiment faire une affaire d'État. Bon, ce que c'était certes, mais il y avait d'autres options possibles. Voilà.
Vous vouliez poursuivre quelque chose ?
Non.
Okay. Alors, Pilar Martinez Vasseur, on a longtemps reconnu, vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure, un rôle très important de Juan Carlos dans la consolidation de la démocratie espagnole. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots justement quel a été son rôle? Alors, on se souvient évidemment de sa prise de parole, on pourrait peut-être faire un parallèle entre les deux discours, mais évidemment ça a ses limites. Mais il y a évidemment ce discours de février 81 où Juan Carlos prend la parole alors qu'un coup d'État est en cours et donc va empêcher ce coup d'État. Aidez-nous à comprendre jusqu'où est-ce que Juan Carlos a accompagner, aider, consolider cette démocratie espagnole?
Alors, bien sûr qu'aujourd'hui, les historiens, les politologues, les journalistes, les citoyens, etc., nous avons tous tendance à revenir en arrière sur ce que nous avions écrit sur cette période. Certains, déjà avant ce scandale, avaient remis en cause le rôle du roi pendant cette période de transition, et il y avait plusieurs approches de ce rôle-là. Moi, je dirais que, tout d'abord, il avait une légitimité franquiste, qui était celle d'héritier choisi par le général Franco. Il avait ensuite acquise une légitimité, on va dire, constitutionnelle du fait d'avoir aidé à la rédaction de cette constitution, qui le dépossédait de certains pouvoirs et qui en faisait de lui un roi constitutionnel bien éloigné de ses ancêtres. Mmh. Et ensuite, je dirais, pour revenir à cet événement phare qui a donné à Juan Carlos une légitimité, je dirais, et démocratique et populaire, c'est le rôle qu'il a joué cette nuit du 23 février 1981, où, avec ce discours à 1h du matin, avec son uniforme de capitaine général des forces armées, il a déclaré que la couronne prenait parti pour la démocratie. Donc ça, c'est un fait. Moi, mes travaux sur l'armée confirment cela, puisqu'il y a des témoins qui avaient assisté à ce qui s'est passé cette nuit-là dans les différentes casernes et endroits de décision de l'armée espagnole, ceci correspondrait à ce qui s'était passé cette nuit-là. Et Georges Samprin, je me souviens, avait déclaré à la suite de ce qui s'était passé le 23 février, Juan Carlos est devenu un bouclier de la démocratie. Donc, tout le monde sait que Samprin, c'est pas peut-être le plus monarchiste de tous les hommes politiques, lorsqu'il a été ministre de la Culture au gouvernement de Felipe González. Mais je crois que, pour la première fois, je dirais de mémoire, nous avons vu quelques jours après, le 23 février 1981, dans les rues de Madrid, plus d'un million de manifestants avec une pancarte. Et moi, je me frottais les yeux à l'époque. Je me disais, non, je crois qu'il y aura un problème. Où il y avait marqué « Vive le roi ». Et derrière cette pancarte, on voyait une classe politique qu'on n'imaginerait pas aujourd'hui. Depuis Carrillo, par exemple, parti communiste à l'époque, jusqu'à Fray Libarne, qui était ministre de Franco il y avait quelques années. Donc voilà, il y avait cette légitimité populaire. Alors voilà, depuis, on a l'impression que ce qui vient de se passer là remettrait en cause ce récit sur la transition, et je reviendrai, je termine, à Paul Preston, hispaniste britannique, qui a écrit une superbe biographie, d'abord sur Franco, qui reste vraiment une référence absolument importante, mais une autre biographie sur Juan Carlos, et dans sa dernière déclaration, donc elle a été actualisée en 2006. Et
la meilleure de toutes, vous m'avez dit avant de commencer l'émission, oui. Meilleure biographie.
Oui, à mon avis, c'est une meilleure biographie. Là, maintenant, je commence à douter. Mais lui-même a déclaré ce jour-ci, puisqu'évidemment, il a été très, très interviewé, ouais, questionné, ouais, etc., que vraiment, cette dernière partie serait à refaire. Et je termine, puisqu'il y a le lien avec la corruption. Il vient d'écrire, Paul Preston, un ouvrage dont le titre de mémoire serait « L'Espagne de 1874 jusqu'à nos jours » et un des sujets clés est la corruption. Et là, la dernière partie, il revient sur le rôle du roi. Donc voilà.
Alors Sophie Babi, Pilar Martinez-Vasseur nous dit légitimité populaire, mais aussi légitimité franquiste. Parce qu'il faut se souvenir que pendant la période franquiste, il y a eu une cohabitation de circonstances entre Franco et la monarchie. Dès 1947, Franco réintroduit la monarchie en Espagne, tout en laissant le trône vacant officiellement et prenant en réalité la place du monarque. Et puis, après avoir pris en main son éducation, il va finalement nommer Juan Carlos comme son successeur en 1969, qui lui permettre de devenir vraiment roi d'Espagne à sa mort en 75. Comment aujourd'hui, Sophie Babi, la monarchie espagnole, celle de 2020, gère cette question de la mémoire du franquisme, de cette légitimité franquiste de cette monarchie? Est-ce qu'elle a totalement rompu ou est-ce qu'elle a encore du mal à prendre ses distances?
Je dirais qu'elle ne le gère pas du tout, justement. Je pense que c'est l'un des problèmes de la monarchie aujourd'hui. c'est qu'elle assume absolument cet héritage, dans le sens où c'est précisément parce que Juan Carlos a été nommé par Franco comme son successeur que la démocratisation a pu se faire de la façon dont elle s'est faite et que la monarchie a pu s'installer en Espagne. On peut douter autrement du fait que la monarchie aurait été réintroduite. Donc il n'y a absolument aucun travail de condamnation de cette origine de la réintroduction de la monarchie en Espagne, pas du tout. Et c'est l'un des éléments clés aussi de la crise de la monarchie. Alors pour venir peut-être sur ce que disait ma collègue, on a eu coutume de dire en Espagne que les Espagnols étaient plus Juan Carlistes que monarchistes. C'est-à-dire qu'ils aimaient, ils soutenaient cette personne de Juan Carlos, en particulier à cause de son action qu'a très bien décrite Pilar Martinez sur au moment du 23F, au moment du coup d'État de 1980. C'est-à-dire un attachement à la figure du roi en reconnaissance du travail accompli à ce moment-là, mais pas un attachement à l'institution monarchique en tant que telle, qui avait été, il faut bien le dire, totalement décrédibilisée dans les années 30, avec un premier exil, ce qui est fort intéressant après ce second exil de 2020. Voilà, le grand-père a fui l'Espagne en 1931, accusé de haute trahison par la Seconde République, et c'est maintenant son petit-fils Juan Carlos qui lui-même a pris le chemin de l'exil aux Émirats Arabes Unis. Rien de très glorieux là-dedans.
Pilar Martinez-Vasseur, quelle forme elle prend cette bataille mémoriale autour de Franco, au-delà de la question de la monarchie, aujourd'hui en Espagne?
Je crois qu'il y a une question sur laquelle on est revenu souvent quand on parle de la question mémorielle en Espagne, c'est-à-dire que en Espagne, tout d'abord, la transition, et je vais dire toute la période 75 jusqu'à nos jours, où si on fait le décompte du nombre d'années où la droite et la gauche ont gouverné, pour le moment, le Parti Socialiste a gouverné pendant quelques années de plus que le Parti Populaire. Je veux dire, le Parti Socialiste, dans la première période 82-96, dans le gouvernement de Felipe González, il y avait eu un problème de retour sur ce passé de la République et de la guerre civile. Je veux dire, une revendication, notamment de la mémoire de cette période, surtout ce qui manquerait, et je crois qu'on retrouve aujourd'hui les conséquences, un enseignement, une connaissance de ce qu'a été la République et la guerre civile, et même le franquisme, ce qui empêcherait le travail des mémoires aujourd'hui aussi. Mais
justement, à ce moment-là, Pilar Martinez-Vasseur, après le franquisme, après le retour de la démocratie, qu'est-ce qui reste du républicanisme en Espagne? Est-ce que quel est l'état du débat d'un basculement vers une république à ce moment-là? Est-ce que c'est un sujet ou est-ce qu'on laisse ça derrière soi?
Je pense que c'est pas un sujet, parce que je crois que ça tient compte, c'est toujours, dans ce que je viens de dire, un problème par rapport à l'enseignement et à l'éducation et à la connaissance de l'histoire passée. Si le régime républicain est toujours lié dans les sous-conscients collectifs des Espagnols, jeunes, moins jeunes, au déclenchement de la guerre civile, c'est-à-dire c'est en raison de ce régime républicain qu'il y a eu ensuite une guerre civile, il est difficile pour des citoyens qui n'ont pas une connaissance de l'histoire. L'Espagne n'est pas la France à ce niveau-là, même s'il y a quand même des faiblesses au niveau de l'enseignement de l'histoire. Mais la méconnaissance de l'histoire de cette période fait qu'il y a toujours une crainte par rapport à République, synonyme de guerre civile.
Donc on n'en parle pas trop à l'époque?
On n'en parle pas.
Et alors Sophie Babi, quand justement, avant de s'intéresser au Luxembourg dans un très court instant, quand est-ce que ce débat va revenir sur le devant de la scène en Espagne?
Alors, je dirais que c'est pas tellement qu'on n'en parle pas dans les années 70, mais c'est plutôt que les partis républicains sont tout de suite exclus du débat public par le consensus qui se met en place. Donc, ils n'ont pas l'occasion de s'exprimer ni de participer aux premières élections législatives, parce que justement, la question de la nature du régime ne doit pas se poser en Espagne, parce que c'est Juan Carlos qui a été installé et qui doit mener cette démocratisation. Donc, le Parti communiste finit, comme tous les autres, par accepter la figure de Juan Carlos en échange de sa légalisation et de son acceptation du jeu politique en cours, et donc de la monarchie. Voilà. Mais les partis républicains existaient et ils étaient tout à fait financés, organisés depuis l'exil. Voilà. Et comme les exilés ne sont pas revenus en masse dans les années 80, il n'y a pas eu d'opinion majoritaire forte en faveur de la République. Mais je dirais que la question de la nature du régime, finalement, n'est pas celle qui est la plus importante pour l'Espagne. C'est plutôt la consolidation et l'affirmation de la démocratie qui comptait à ce moment-là et qui continue à compter aujourd'hui. Donc, si la figure et l'institution monarchique sont totalement délégitimées, il n'y a plus de raison de maintenir ce régime monarchique. Voilà. Et en l'occurrence, les scandales de Juan Carlos, pour l'instant, n'ont pas l'air de trop avoir touché son fils, Philippe VI, dont la réputation et la figure sont plutôt assez bien vues en Espagne.
Voilà. La nature quand même du système politique est importante, Pilar Martínez-Vasseur. Vous évoquiez tout à l'heure, et on va finir avec ça avant de parler du Luxembourg, cette deuxième république espagnole qui commence en 1931 jusqu'au coup d'État de 1936, qui a provoqué évidemment l'effondrement de l'État républicain. Mais à ce moment-là, comment est-ce qu'on envisage précisément le passage vers la République?
En 31.
Ben, et est-ce qu'on pourrait s'inspirer de ces modèles-là?
Je pense pas. Je pense que même ceux qui sont pro-républicains auraient vraiment, je crois, des difficultés à s'inspirer dans ces moments-là, parce que la proclamation de la République le 14 avril 1931 se fait suite à des élections municipales. Donc voilà, c'est un régime qui est proclamé, et après il va avoir des élections législatives, etc., qui est proclamé suite à des élections municipales et non pas à un référendum. Donc lorsque le coup d'État 36 a lieu, ceux qui soutiennent ce coup d'État, dans la droite, dans l'armée, etc., vont après réécrire l'histoire et dire, de toute façon, la République n'était pas un régime légitime, puisque suite à des élections municipales, on ne peut pas changer de régime. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, chez les débats, chez les citoyens, les partis politiques, etc., c'est vrai, quel type de République voulons-nous? Unitaire, fédérale, etc., etc.
Une vaste question sur laquelle on aura évidemment l'occasion de revenir. Merci à vous, Pilar Martínez-Vasseur. Vous restez avec moi, avec nous, ainsi que Sophie Babi. On change de cours. On est en Espagne, direction le Luxembourg.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisque l'année dernière, le journal luxembourgeois Reporter publiait une enquête sur des dysfonctionnements à la cour grand-ducale du Luxembourg, gestion des fonds publics hasardeux, avantages financiers. Face à ces révélations, le gouvernement du Premier ministre Xavier Bettel lance alors un audit de la cour.
Det var inga rapport as publik sin konklusion de funktionement fun der monarchi muss reformiert gehen.
Voilà, ça a fait la une des journaux. C'était une première dans un pays où l'opacité reste la règle. Aux manettes de l'audit, Jeannot Varingo, dont le rapport a été publié en janvier dernier. Alors, que dit ce rapport et quelles conséquences possibles? Bonjour, Christopher Boom.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin depuis Luxembourg. Vous êtes journaliste et rédacteur en chef du journal Reporter, justement. Jeannot Varingo, ancien directeur de l'Inspection Générale des Finances, a rendu son rapport d'audit en janvier dernier. Il dit quoi, ce rapport? Les dysfonctionnements soulignés, c'est quoi, essentiellement, Christophe Boom?
Les dysfonctionnements, comme nous l'avons mentionné dans notre enquête l'année dernière, il s'agit surtout de beaucoup de départs de la cour grand-ducale, plus que 30 employés sur un effectif d'environ 100 personnes ont quitté la cour. Il y avait des licenciements arbitraires avec des suites juridiques aussi, qui étaient surtout liés au rôle controversé de la grande-duchesse Maria Teresa, qui se mêle activement de la gérance de la cour et notamment de la gérance des ressources humaines. C'est un peu au cœur de tout le débat et aussi du rapport Varingo, le rôle de la grande-duchesse. Là, il faut savoir que la constitution luxembourgeoise accorde aucun rôle à l'épouse du grand-duc. Alors, cette pratique, connue par la classe politique depuis assez longtemps, est le point de départ et la raison concrète pourquoi le gouvernement voulait plutôt augmenter son contrôle sur le fonctionnement de la cour. Il faut savoir, jusqu'à maintenant, il y avait un budget global pour la monarchie accordé par le gouvernement et le Parlement, mais il n'y avait quasiment pas de contrôle et encore moins de transparence. C'est un peu ça au cœur du rapport et de tout le débat politique.
Alors, on va voir ce qui a changé, Christophe Boom, mais jusqu'ici, le gouvernement ne mettait pas trop son nez, pour pas dire jamais son nez, dans les affaires de la Cour. Là, on a un Premier ministre qui demande un audit. Comment vous interprétez la chose? C'est la fin de l'immunité à la Cour grand-ducale du Luxembourg?
Je ne veux pas dire la fin de l'immunité. Avant, il y avait quand même les mêmes discussions, mais derrière les coulisses, notamment, bien sûr. Et là, c'est la première fois que tout le débat sur la monarchie, sur la transparence surtout, et sur la place publique. Je pense quand même que il faut quand même dire que objectivement, le gouvernement de Xavier Bettel a proposé une réforme qui s'impose depuis longtemps, il faut dire, parce que comparé à d'autres pays, d'autres monarchies représentatives, il n'y avait pas de vraie réglementation au Luxembourg, pas de règles, pas de loi sur la transparence et sur le contrôle de la monarchie et bien sûr sur les dépenses financées par le contribuable. Ouais. Je pense quand même c'est aussi plutôt une mission personnelle du Premier ministre, de Xavier Bettel, parce que ça ne faisait pas à la base partie du programme gouvernemental. Et depuis quelques mois, le Premier ministre a aussi nommé plusieurs personnes, plusieurs proches, à des positions clés à la Cour grand-ducale qui vont sûrement assurer l'implémentation de toute la réforme de la monarchie. Oui.
Et alors, justement, c'est quoi les réformes proposées par Xavier Bettel? Qu'est-ce qu'il veut changer dans l'organisation de la Cour?
D'abord, concrètement, le rapport Varengo veut instaurer une nouvelle institution pour commencer, la maison du grand-duc, avec une séparation stricte entre activités officielles du chef de l'État qui sont financées par le budget de l'État et la vie et surtout les dépenses privées du grand-duc. Je pense que c'est au cœur de toute la réforme, la séparation stricte et la réglementation stricte entre les deux. Oui.
Est-ce qu'il y a un débat aujourd'hui au Luxembourg autour de la Cour du Grand-Ducal? Est-ce qu'on se dit oui, bien sûr, il faut réformer, mais on ne touche absolument pas à la monarchie? Est-ce que c'est un sujet ou pas trop?
C'est plutôt ça. Hein. Je pense, je dirais que les Luxembourgeois sont majoritairement encore pro-monarchie, mais l'opinion publique semble aussi d'accord avec la nouvelle approche du gouvernement d'instaurer plus de contrôle et de transparence, etc. Il faut dire ça fait un peu plus de 100 ans un référendum sur la monarchie au Luxembourg où presque 80% ont voté pour la démocratie parlementaire sous la forme d'une monarchie. Et il y avait seulement près de 20% qui étaient à l'époque pour une république. C'est toujours encore l'exemple aujourd'hui dans le débat et je pense que
Et l'état de l'opinion n'a pas changé depuis. L'état de l'opinion n'a pas changé.
Je pense quand même, mais je pense aussi que l'acceptation de la monarchie au Luxembourg est plutôt pragmatique, en quelque sorte un garant pour l'indépendance aussi. Si on connaît un peu l'histoire du pays, qui était dans son histoire en danger réel d'être annexé, pas seulement par les Allemands, mais aussi les autres grands voisins, disons. Les Luxembourgeois voient aussi dans la monarchie un caractère de distinction, un peu, alors un moyen de nation branding, de promotion de la marque du pays. Et bien sûr, cette logique fonctionne seulement tant que l'image de cette monarchie est positive, ce qui n'était pas trop le cas les derniers mois. Oui. Mais peut-être en comparaison, les discussions n'ont certainement pas la dimension du débat sur la monarchie, la corruption et une vraie affaire d'État comme en Espagne. Il n'y a pas non plus un mouvement considérable pour l'abolition de la monarchie, mais dans le contexte du Luxembourg, alors un pays, comme vous le dites, où la monarchie ne faisait pas beaucoup de débats pendant des décennies, c'est quand même pas rien. Ouais.
Christophe Boom, est-ce qu'il y a, comme en Espagne, des forces politiques qui revendiquent la fin de la monarchie? On disait tout à l'heure avec Pilar Martinez-Vasseur et Sophie Babi combien Podemos avait été un peu à l'avant-garde ces dernières années, justement, de ce basculement vers la République. Alors aujourd'hui, compte tenu de la situation sanitaire, compte tenu aussi des équilibres parlementaires, tout simplement, on voit bien du côté de Podemos que c'est pas possible, donc on repousse un peu l'échéance. Mais il n'empêche que ça a été quand même un sujet qui a été très mis en avant ces dernières années et qui lui a permis, entre autres, justement, de devenir une force politique de premier plan, parce que c'est aujourd'hui la troisième force politique du pays. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, du côté du Luxembourg, une force politique qui utiliserait justement ce sujet-là pour monter?
Non, pas jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de mouvement considérable, disons, il y en a. Il y a la jeunesse du Parti Socialiste, par exemple, mais pas seulement depuis maintenant, mais depuis toujours, qui revendique une république luxembourgeoise. Mais sinon, il y a quand même un grand consensus dans la société, mais surtout dans la vie politique, entre partis de la droite jusqu'à la gauche radicale, disons. Même la gauche radicale au Luxembourg ne voit pas trop d'intérêt de mener ce débat actuellement. Mais ça peut vite changer, comme on le voit aussi en Espagne. Ouais.
Et est-ce que le séisme pourrait venir de la cour elle-même? Parce qu'au moment de la sortie du rapport, a été évoquée la possibilité d'une abdication du grand-duc Henri, tant la pression était forte. Est-ce que cette hypothèse-là, aujourd'hui, est écartée?
Non, pas écartée, mais ce sont plutôt des rumeurs, disons, des discussions dans les médias, peut-être. Je pense que c'est possible pour raison de toute cette discussion et du rapport qui est quand même inédit au Luxembourg. Mais c'est peut-être moins à cause de l'ampleur des dysfonctionnements, mais plutôt pour sauver son image, l'image du grand-duc Henri dans l'histoire et son héritage, disons. Il y a de telles discussions, oui, mais et en plus, son fils est grand-duc héritier Guillaume et son épouse Stéphanie viennent d'avoir un enfant, le prince Charles. Alors la succession de la dynastie luxembourgeoise est certainement assurée. Ouais. C'est une possibilité. Ça fait 20 ans que le grand-duc est en règne. C'est une possibilité, mais pas seulement à cause du débat, je dirais.
Vous nous rappelez les pouvoirs du grand-duc au Luxembourg?
Oui, ils sont très restreints, de facto très restreints, très représentatifs, mais c'est une autre question, un autre débat qui est mené actuellement au Luxembourg. Dans la Constitution, textuellement, les pouvoirs sont quand même encore assez élargis. Alors, c'est une question un peu de théorie et réalité constitutionnelle. Je pense jusqu'à maintenant, et ça n'a pas changé depuis le rapport Varingo, il avait quand même une grande responsabilité interinstitutionnelle, si on veut, entre gouvernement et monarchie, qu'il y a une réalité moderne dans l'implémentation de la Constitution, je dirais. Ouais.
Et est-ce qu'on s'autorise à prendre des positions politiques? On parlait tout à l'heure du discours de Philippe VI en plein milieu de la crise catalane. Est-ce que ce genre de choses... Évidemment, il n'y a pas de crise catalane en Luxembourg, j'entends bien. Mais est-ce qu'il y a des prises de position politique
De la part du Grand-Duc?
Du Grand-Duc, oui.
Il y en avait, et surtout, c'était un peu... une situation un peu bizarre qu'après notre enquête et des enquêtes d'autres médias au Luxembourg, il avait une prise de position du grand-duc, mais qui était en fait écrite par la grande-duchesse. c'était un peu une situation un peu bizarre, disons, parce que tout le monde le savait et c'était une prise de position pas trop professionnelle, disons, plutôt émotionnelle. Ça montre bien le problème que le rôle de la grande-duchesse elle a quand même un grand rôle, plus grand et peut-être plus politique que son mari. C'est ce qui est aussi au cœur du débat ou des discussions au sein du gouvernement ou de la classe politique.
Alors même que la Constitution ne donne aucun rôle à l'épouse du chef de l'État.
La grande-duchesse, évidemment.
Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie, allez-y, quelques secondes.
Non, il faut dire que le Premier ministre Xavier Bettel s'est dit soi-même aussi monarchiste. Il le dit assez souvent, mais par cela, il veut bien sûr dire qu'il est pour une monarchie purement représentative, contrôlée par le gouvernement, qui de son côté a bien sûr une légitimité démocratique claire et nette. Je pense que là, c'est aussi au cœur de tout le débat politique actuellement.
Merci beaucoup, Christophe Boom. Merci à nos deux invités de nous avoir éclairés sur la monarchie espagnole, Pilar Martinez Vasseur ainsi que Sophie Babi qui était avec nous depuis Marseille. Un grand merci à toutes les deux. On mettra les références de vos ouvrages et de ceux dont on a parlé, notamment cette très bonne biographie, disiez-vous, sur le site de Culture Monde. C'est dans un très court instant Olivia Gesberg, mais d'abord c'est l'ami Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, au fur et à mesure qu'approche l'échéance, le climat de la campagne électorale aux États-Unis se tend.
Oui, à 2 mois de l'élection, les sondages donnent une avance relativement confortable aux candidats démocrates. 50% d'intention de vote pour Joe Biden contre 43% pour le président sortant. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours. D'abord parce que l'écart a eu tendance à se réduire ces dernières semaines. Ensuite, parce que les sondages accordaient la victoire à Hillary Clinton en septembre 2016. Et on connaît la suite. Reste qu'aujourd'hui, encore plus qu'il y a 4 ans, l'atmosphère politique aux États-Unis est, disons-le, pestilentielle. Certains commentateurs n'hésitent pas à la comparer à celle qui présida à la guerre de sécession qui fit, rappelons-le, 620 000 morts aux États-Unis. Comme alors, la polarisation politique est inouïe. Chacun des deux camps en présence est absolument sûr de son bon droit et prête à l'autre les intentions les plus diaboliques. La démocratie repose, écrit Alexander Cohen dans The Conversation, sur la légitimité de gouverner reconnue au vainqueur des élections. Or, le résultat des présidentielles de novembre 2020, quel qu'il soit, va exaspérer près de la moitié des Américains, au point qu'on peut se demander si une partie significative de l'électorat ne risque pas de refuser au vainqueur sa légitimité. Selon le politologue Shane Westwood, lors des présidentielles de 1988, c'est pas si loin, qui opposèrent, on s'en souvient, George Bush à Michael Dukakis, l'électorat considérait généralement l'autre camp avec respect. Les électeurs jugeaient que les deux candidats cherchaient à améliorer la vie des Américains. Par contraste, les candidats d'aujourd'hui sont tous deux décidés à canaliser à leur avantage une colère. Joe Biden, la colère que provoque Trump, et Trump, la colère qu'éprouve la classe moyenne blanche. Celle-ci s'inquiète en effet du déclin de son influence. Pour la première fois de son histoire en cette rentrée, les blancs ne seront plus majoritaires parmi les élèves du primaire et du secondaire aux États-Unis, ce qu'on appelle le K-12. L'immigration en provenance d'Amérique centrale se poursuit. 45 millions d'habitants des États-Unis actuels sont nés dans un autre pays. Or, la politique américaine est littéralement obsédée par les identités ethniques ou sexuelles. La corrélation entre animosité raciale et identification idéologique et partisane est à son plus haut degré d'incandescence, écrit notamment Thomas Hetzel dans le New York Times.
Mais alors Brice, qu'est-ce qui fondamentalement distingue les deux électorats?
La base électorale du Parti républicain, elle n'a guère changé en un quart de siècle. 88% étaient des chrétiens blancs en 1984, 75% de ces électeurs actuels sont blancs et chrétiens aujourd'hui. Mais le Parti démocrate, lui, a beaucoup changé. Pensez que 38% de ses électeurs se déclarent à présent sans affiliation religieuse. Et il est devenu le grand parti des minorités ethniques. Du coup, il est aussi plus diversifié que le Parti républicain. On croyait la guerre des cultures terminée par une victoire nette de la gauche sur les questions de société telles que le droit à l'avortement ou le mariage homosexuel, mais voilà qu'elle ressurgit, selon le politologue conservateur Daniel Henninger, dans une tribune du Wall Street Journal de la semaine dernière. Trump croyait jouer sa réélection, écrit-il, sur l'éclatante santé économique des États-Unis à la veille de l'épidémie de coronavirus, mais les mesures adoptées pour la contenir ont fait plonger l'Amérique dans la récession, le chômage, hier encore au plus bas, est reparti à la hausse et Trump a dû chercher un nouveau thème de mobilisation. Il fait désormais campagne pour la loi et l'ordre, capitalisant sur la peur qu'inspirent à nombre d'Américains les dérapages qui ont parfois suivi les manifestations Black Lives Matter. Le propre des guerres culturelles, c'est qu'elles mettent en jeu, bien au-delà de simples divergences d'opinion, des systèmes de valeurs complets. La guerre culturelle du moment a pour épicentre Portland, Oregon. La ville compte l'une des universités les plus politisées des États-Unis. Le maire, Ted Wheeler, démocrate modéré, est devenu la cible de Trump pour n'avoir pas su empêcher que les manifestations ne dégénèrent, comme dans d'autres villes américaines, en incendies et en pillages. Trump se présente désormais comme seul capable de ramener la sécurité dans une Amérique au bord de la crise de nerfs où des deux côtés on se hait et on s'arme. On n'a jamais vendu autant d'armes que ces dernières semaines aux États-Unis. La guerre de sécession fut déclenchée, on s'en souvient, par le refus des États du Sud de reconnaître le résultat des élections présidentielles de 1860. Leurs dirigeants n'ignoraient pas que l'intention du vainqueur, Abraham Lincoln, était de mettre fin au scandale de l'esclavage. Eh bien aujourd'hui, c'est le président sortant qu'on soupçonne de ne pas reconnaître sa propre défaite probable. Il soupçonne des irrégularités dans le dépouillement du scrutin et il met d'avance en cause le vote par correspondance. Cette dramatisation a évidemment pour but de rameuter ses propres électeurs, mais elle contribue à cliver davantage encore le peuple américain.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. On vous retrouve demain